Aristote, Physique, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire, livre 4, de l'espace, du vide et du temps. Chapitre 1er, sommaire. Théorie de l'espace ou du lieu. Nécessité de cette théorie. Ses difficultés. Insuffisance des recherches antérieures. Paragraphe 1. Le physicien doit nécessairement savoir aussi de l'espace, tout comme de l'infini, s'il existe ou n'existe pas, et déterminer comment l'espace existe et ce qu'il est. Paragraphe 2. Ainsi, tout le monde admet que ce qui est, est en quelque lieu de l'espace, et que ce qui n'est pas n'est nulle part. Car où sont, par exemple, le bouc cerf et le sphinx? Paragraphe 3. Puis, parmi les mouvements, le plus commun de tous, et celui qui mérite le plus spécialement ce nom, c'est le mouvement qui se fait dans l'espace, et que nous appelons la translation. Paragraphe 4. Mais il y a plus d'une difficulté à savoir précisément ce qu'est l'espace, car il ne se présente pas de la même manière sous toutes les faces où on le considère. Paragraphe 5. Ajoutons enfin que les autres philosophes ou ne nous ont rien donné sur ce sujet ou n'en ont pas donné des explications satisfaisantes. Chapitre 2. Sommaire. Démonstration de l'existence de l'espace. Succession des corps dans un même lieu. Propriété de l'espace. Mouvement spontané des éléments. Preuve tirée des mathématiques et de l'hypothèse du vide. Hésiode. Paragraphe 1. Une preuve manifeste de l'existence de l'espace, c'est la succession des corps qui se remplacent mutuellement dans un même lieu. Là où il y a de l'eau maintenant, arrive de l'air quand l'eau sort de ce lieu, comme quand elle sort, par exemple, d'un vase. Et c'est un autre corps qui vient occuper ce même lieu que le premier corps abandonne. L'espace se distingue donc de toutes les choses qui sont en lui et qui y changent. Car là où actuellement il y a de l'air, l'eau se trouvait antérieurement. Par conséquent, l'espace ou le réceptacle qui contient successivement l'air et l'eau est différent de ces deux corps, espace où ils sont entrés et d'où ils sont sortis. Paragraphe 2. À un autre point de vue, les déplacements des corps naturels et simples, le feu, la terre et les autres, ne démontrent pas seulement que l'espace est quelque chose, mais il démontre, en outre, qu'il a une certaine propriété. Ainsi, chacun de ces éléments est porté, quand rien ne s'y oppose, dans le lieu qui lui est propre. Celui-ci va en haut, celui-là va en bas. Or, le haut et le bas, et chacune des autres directions, en tout au nombre de 6, sont des parties et des espèces, de l'espace et du lieu. Paragraphe 3. Mais ces directions ne sont pas seulement relatives à nous, la droite et la gauche, le haut et le bas, car elles ne restent pas constantes pour nous, et elles se diversifient selon la position que nous prenons nous-mêmes, en nous tournant, puisque souvent une même chose est pour nous à droite et à gauche, au-dessous et au-dessus, devant et derrière. Dans la nature, au contraire, chacune de ces positions est séparément déterminée. Le haut n'est pas un lieu quelconque, c'est le lieu où se dirige le feu, et en général les corps légers. Le bas n'est pas davantage arbitraire, et c'est le lieu où se dirigent tous les corps qui ont de la pesanteur et qui sont composés de terre. Par conséquent, ces éléments ne diffèrent pas seulement par leur position, ils diffèrent encore par leurs propriétés et leur puissance. Paragraphe 4. C'est bien là aussi ce que prouvent les mathématiques. Les êtres dont elles s'occupent ne sont pas dans l'espace. Cependant, par la position qu'ils occupent relativement à nous, ils sont à droite et à gauche. C'est la pensée seule qui fait leur position, sans qu'ils en aient naturellement aucune. Paragraphe 5. D'autre part, en admettant l'existence du vide, on affirme aussi celle de l'espace, puisqu'on définit le vide un lieu, un espace, où il n'y a pas de corps. Paragraphe 6. Ainsi, toutes ces raisons se réunissent pour prouver que l'espace est quelque chose de réel, indépendamment des corps, et que tout corps sensible est dans l'espace. Paragraphe 7. Aussi, Hésiode paraît-il avoir raison quand il place le chaos à l'origine des choses, et quand il dit « Bien avant tout le reste apparut le chaos, puis la terre au sein vaste ». Le poète suppose donc qu'il faut avant tout pour les êtres un lieu où ils se placent, et par là, Hésiode se conforme à l'opinion commune, qui croit que toutes les choses sont quelque part et dans l'espace. S'il en est ainsi, le lieu, l'espace, a une propriété merveilleuse et la première de toutes en date. Car ce sans quoi rien de tout le reste ne peut être, tandis qu'il existe lui-même sans le reste, est nécessairement antérieur à tout, puisque l'espace n'est pas détruit quand les choses qu'il renferme sont détruites. Chapitre 3. Sommaire. Question qu'il faut se poser pour expliquer la nature de l'espace, des dimensions de l'espace, de la confusion de l'espace et des corps, des éléments de l'espace, de sa grandeur, de la causalité de l'espace, du lieu de l'espace, Zénon, du développement des corps. Paragraphe 1. Une fois fixé sur l'existence de l'espace, il n'en reste pas moins difficile de savoir ce qu'il est. L'espace est-il la masse quelconque d'un corps ? Ou est-il quelque nature différente? Notre première recherche, en effet, doit être de savoir à quel genre il appartient. Paragraphe 2. L'espace a bien les trois dimensions, longueur, largeur et profondeur, qui déterminent toute espèce de corps. Mais il est impossible que l'espace soit un corps, car il y aurait ainsi deux corps dans un même lieu. Paragraphe 3. D'autre part, le corps devant avoir un lieu et une place, il est évident aussi que la surface et les autres limites du corps doivent également en avoir une, car le même raisonnement peut s'appliquer à elle, puisque là où il y avait antérieurement les surfaces de l'eau, il peut y avoir ensuite les surfaces de l'air qui en auront pris la place. Toutefois, il n'y a aucune différence appréciable entre le point et le lieu du point, de telle sorte que si le lieu du point n'est pas autre chose que le point lui-même, le lieu ne différera non plus dans aucun autre des cas, et l'espace alors n'est absolument rien en dehors de chacun de ces objets. Paragraphe 4. Qu'est-ce donc que l'espace devra être pour nous? Et comment faut-il le considérer? Avec la nature qu'il a, il ne peut ni être un élément, ni être un composé d'éléments, soit corporels, soit incorporels. Il a de la grandeur sans cependant être un corps. Or, les éléments des corps sensibles sont des corps eux-mêmes, et les éléments purement intelligibles ne forment jamais une grandeur. Paragraphe 5. On demande, en outre, de quoi l'espace peut-il être considéré comme cause pour les êtres? on ne trouve en lui aucune des quatre causes, et l'on ne peut le regarder ni comme la matière des êtres, puisqu'aucun être n'est composé d'espace, ni comme la forme et la raison des choses, ni comme leur fin, pas plus qu'il ne peut en être le moteur. Paragraphe 6. Ajoutez ceci encore. Si l'espace lui-même doit compter parmi les êtres, où sera-t-il placé? Et alors le doute de Zénon ne laisse pas que d'exiger quelques réponses. Car si tout être est dans un lieu, il est clair qu'il y aura un lieu pour le lieu lui-même, et ceci à l'infini. Paragraphe 7. Enfin, si de même que tout corps est dans un lieu qu'il occupe, il faut aussi que le corps soit dans l'espace tout entier. Comment expliquerons-nous le développement des corps qui croissent? Car d'après ces principes, il faut nécessairement que le lieu qu'ils occupent se développe en même temps qu'eux. Si le lieu de chaque chose ne peut être ni plus grand ni plus petit que la chose même. Paragraphe 8. Telles sont les questions qu'il faut nécessairement résoudre pour savoir non pas seulement ce qu'est l'espace, mais même pour savoir si il est. Chapitre 4. Sommaire. L'espace est le lieu absolu où sont les choses. Platon, dans le Timée, a tort de confondre la matière et le lieu. L'espace n'est ni la matière ni la forme des choses. Paragraphe 1. De même que l'être peut être considéré ou en soi ou relativement à un autre être. De même, l'espace, dans son acception commune, est celui où sont tous les corps que nous voyons. Mais dans son acception propre, c'est celui où ils sont primitivement. Je m'explique. Par exemple, vous êtes actuellement dans le ciel, puisque vous êtes dans l'air et que l'air est dans le ciel. Et vous êtes dans l'air, puisque vous êtes sur la terre. Et semblablement, vous êtes sur la terre, parce que vous êtes dans tel lieu de la terre qui ne renferme absolument plus rien que vous. Paragraphe 2. Si donc l'espace est ce qui primitivement renferme chacun des corps, il est une limite, et par suite, le lieu pourrait être considéré comme la forme et la figure de chaque chose, qui détermine la grandeur et la matière de la grandeur, car la forme est la limite de chaque corps. Donc, à ce point de vue, l'espace, le lieu, est la forme des choses. Paragraphe 3. Mais en tant que l'espace semble aussi la dimension et l'étendue de la grandeur, on le prendrait pour la matière des choses, car la matière est différente de la grandeur même, et elle est ce qui est enveloppé par la forme et ce qui est déterminé par la surface et par la limite. Or, c'est là précisément ce qu'est la matière et l'indéterminé. Car si vous enlevez à une sphère sa limite et ses diverses conditions, il ne reste plus rien que la matière qui la compose est une limite. Si vous enlevez rationnellement plutôt encore que réellement. Paragraphe 4. Aussi Platon n'hésite-t-il pas dans le Timée à identifier la matière des choses et la place des choses, car le récipient capable de participer à la forme et à la place des choses, c'est tout un pour lui. Bien que Platon, dans ce même traité, emploie ce mot de récipient en un autre sens, dont il ne le fait dans ce qu'on appelle ses doctrines non écrites. Cependant, il a confondu l'espace et la place des choses. Ainsi, pendant que tous les autres philosophes se contentent d'affirmer simplement l'existence de l'espace, Platon est le seul qui ait essayé d'en préciser la nature. Paragraphe 5. À s'en tenir à ces considérations, il pourrait paraître difficile de se rendre compte de ce qu'est exactement l'espace si on le prend indifféremment ou pour la matière ou pour la forme des choses, car il n'y a guère de recherche plus haute que celle-là, et il n'est pas aisé de comprendre la matière et la forme isolément l'une de l'autre. Paragraphe 6. Voici toutefois ce qui fera voir sans trop de peine que l'espace ne peut être ni la matière ni la forme. C'est que la forme et la matière ne se séparent jamais de la chose, tandis que le lieu, l'espace, peut en être séparé. Là où il y avait de l'air, vient plus tard de l'eau, ainsi que je l'ai dit, l'air et l'eau permutant l'un et l'autre de place, comme peuvent aussi le faire bien d'autres corps. Paragraphe 7. Par conséquent, l'espace n'est ni une partie, ni une dualité des choses, et il est séparable de chacune d'elles. Paragraphe 8. L'espace nous apparaît donc comme jouant, en quelque sorte, le rôle de vase, car le vase est, on peut dire, un espace transportable, et le vase n'est rien de la chose qu'il contient. Paragraphe 9. Ainsi, l'espace, en tant qu'il est séparé de la chose, n'en est pas la forme, et en tant qu'il embrasse les choses, il est tout différent de la matière. Paragraphe 10. Mais il semble bien que ce qui est quelque part est toujours lui-même quelque chose de réel, et que toujours aussi, il y a quelque autre chose en dehors de lui. Paragraphe 11. Cependant, Platon aurait bien pu dire, si l'on nous permet cette digression, pourquoi les idées et les nombres ne sont pas dans l'espace, puisque selon lui, le récipient c'est l'espace. Que d'ailleurs, ce récipient qui participe aux idées soit le grand et le petit, ou qu'il soit la matière, comme Platon l'a dit dans le Timée. Paragraphe 12. En outre, comment un corps serait-il porté dans le lieu propre qui lui appartient si l'espace était la matière ou la forme? Car il est bien impossible qu'il y ait un lieu qui n'ait point de mouvement, ni en haut ni en bas. Or, c'est dans les différences de ce genre qu'il faut chercher l'espace. Paragraphe 13. Mais si l'espace est dans l'objet lui-même, et il le faut bien, si l'on en fait la forme ou la matière des choses, l'espace alors sera dans l'espace, car la forme et l'indéterminé, c'est-à-dire la matière, changent et se meuvent en même temps que la chose, sans rester toujours dans le même lieu, mais allant où est aussi la chose, et par conséquent, il y aurait un espace pour l'espace, un lieu pour le lieu. Paragraphe 14. Enfin, il faudrait dire encore que, quand la place de l'air survient de l'eau, l'espace disparaît et périt, puisque le corps qui arrive n'est pas dans le même lieu. Mais qui pourrait comprendre cette destruction prétendue de l'espace? Paragraphe 15. Voilà donc de quels arguments on peut tirer nécessairement la preuve que l'espace est réellement quelque chose et conjecturer aussi quelle en est la nature essentielle. Chapitre 5. Sommaire. L'espace est en soi et non dans autre chose. Quand on dit qu'une chose est dans une autre, cette expression peut présenter plusieurs acceptions diverses. Être en soi, être dans une autre chose. Exemple de l'amphore et du vin. Doute de Zénon sur la nécessité de placer l'espace dans un autre espace. si on le fait un être réel. Solution de cette objection. Nature véritable de l'espace. Résumé de ces considérations préliminaires. Paragraphe 1. Ceci posé, il faut expliquer en combien de sens on peut dire qu'une chose est dans une autre chose. Selon une première acception, c'est comme on dit que le doigt est dans la main et d'une manière générale que la partie est dans le tout. Une acception inverse, c'est quand on dit que le tout est dans les parties, car en dehors des parties, le tout n'existe pas. Dans un troisième sens, on dit que l'homme est dans l'animal, et d'une manière générale, que l'espèce est dans le genre. En un autre sens encore, c'est comme le genre dans l'espèce, et d'une manière générale, le genre de l'espèce dans la définition de l'espèce. Être dans une chose peut avoir aussi le sens où l'on dit que la santé est dans les influences du chaud et du froid, c'est-à-dire, d'une manière générale, comme la forme dans la matière. De plus, c'est comme quand on dit que les affaires de la Grèce sont dans les mains du roi, c'est-à-dire à considérer la chose d'une manière générale dans le premier moteur. Une autre acception où l'on dit qu'une chose est dans une autre, c'est quand on la considère comme étant dans le bien et généralement dans la fin, c'est-à-dire le pourquoi, le but, où elle tend. Enfin, l'acception la plus propre de toutes, c'est celle où l'on dit que la chose est dans une autre, comme dans un vase, et d'une manière générale, dans un lieu, dans l'espace. Paragraphe 2. Maintenant, on peut se demander s'il est possible qu'une chose, restant telle qu'elle est, soit elle-même dans elle-même, ou si rien ne peut être de la sorte, et si toutes les choses doivent ou ne point être du tout, ou être dans une autre. Paragraphe 3. Mais quand on dit qu'une chose est dans quelque chose, cette expression a un double sens, et c'est ou en soi, ou relativement à un autre. Paragraphe 4. Ainsi, comme les parties d'un tout sont à la fois et la partie qui est dans le tout et ce qui est dans cette partie, on pourra dire en ce sens que le tout est dans lui-même, car le tout est aussi dénommé d'après les parties. Par exemple, on dit d'un homme qu'il est blanc parce que sa surface est blanche, et l'on dit qu'il est savant parce que sa partie raisonnable est savante. Mais on ne peut pas dire que l'amphore soit dans elle-même non plus que le vin. Seulement, on peut dire que l'amphore de vin est dans elle-même. Car le vin qui est dans le vase et le vase dans lequel il est sont tous les deux les parties d'un même tout. En ce sens donc, une chose peut être elle-même dans elle-même. Paragraphe 5. Mais ces expressions ne peuvent jamais signifier que la chose est primitivement dans elle-même. Par exemple, la blancheur est bien dans le corps, puisque la surface qui est blanche est dans le corps. La science est bien aussi dans l'âme, et les appellations sont formées d'après ces choses qui sont de simples parties, en ce sens qu'elles sont dans l'homme. Mais l'amphore et le vin, considérés isolément l'un de l'autre, ne sont pas des parties d'un tout. Ce ne sont des parties que quand on les réunit tous les deux. Lors donc qu'il s'agit des parties, on pourra dire que la chose même est dans elle-même. Ainsi, la blancheur est dans l'homme parce qu'elle est dans le corps, et elle est dans le corps parce qu'elle est dans la surface, car la blancheur n'est plus dans la surface immédiatement et par une autre chose. Mais c'est que la blancheur et la surface sont d'espèces différentes, et qu'elles ont chacune une nature et une propriété diverses. Paragraphe 6. En recourant à l'induction, nous voyons que rien n'est dans soi-même suivant aucune des définitions ci-dessus données. Paragraphe 7. Et la raison aussi suffit à démontrer que c'est impossible, car il faudra que chacune des deux choses soit à la fois l'une et l'autre. Par exemple, l'amphore devra être à la fois le vase et le vin, et à son tour, le vin devra être le vin et l'amphore, du moment qu'on admet qu'une chose peut être elle-même dans elle-même. Paragraphe 8. Par conséquent, les deux objets auraient beau être le plus complètement possible l'un dans l'autre, l'amphore contiendra toujours le vin, non pas en tant qu'elle est elle-même le vin, mais en tant que le vin est ce qu'il est. Et réciproquement, le vin sera dans l'amphore, non pas en tant qu'il est lui-même l'amphore, mais en tant que l'amphore est ce qu'elle est. Donc, il est évident qu'essentiellement, le vin et l'amphore sont autres, car la définition du contenant est différente de la définition du contenu. Paragraphe 9. Même sous le simple point de vue de l'accident, ce n'est pas plus possible, car il faudrait en ce cas que deux corps fussent à la fois dans un seul et même corps. Ainsi, d'une part, l'amphore serait dans elle-même, si une chose dont la nature est d'en recevoir une autre peut être dans elle-même, et d'autre part, il y aurait de plus dans l'amphore ce qu'elle peut recevoir, c'est-à-dire du vin si c'est du vin qu'elle reçoit. Donc, évidemment, il ne se peut jamais qu'une chose soit primitivement dans elle-même. Paragraphe 10. Quant au doute de Zénon, qui demandait dans quoi on placera l'espace si l'on fait de l'espace quelque chose de réel, il n'est pas difficile d'y répondre. Rien, en effet, n'empêche que le lieu primitif, l'espace primitif, ne soit dans une autre chose, sans y être cependant comme dans un lieu, mais en y étant comme la santé est dans la chaleur, en tant que disposition et habitude, et comme la chaleur est dans le corps, en tant qu'affection corporelle. Par conséquent, il n'est pas besoin de remonter à l'infini. Paragraphe 11. Évidemment, comme le vase n'est rien de ce qui est en lui, puisque le contenant primitif et le contenu sont choses fort distinctes, il s'ensuit que l'espace n'est ni la matière ni la forme, et qu'il est tout autre chose, car la matière et la forme sont l'une et l'autre les éléments de ce qui est dans l'espace. Paragraphe 12. Tels sont donc en résumé les discussions qui ont été soulevées relativement à la nature de l'espace.